Voilà, merci. Merci de m'avoir invité. On disait que Marilyn, ce matin, en aparté, que c'était des conférences difficiles à faire. Très difficiles, parce que, dans le fond, on nous a demandé à toutes les deux, pas directement, mais de faire tous les liens entre nos travaux de recherche depuis 15 ou 20 ans. Et ces liens, on n'a pas toujours le temps de les faire. Donc, merci de m'avoir invité parce que ça m'a obligée à essayer de comprendre un certain nombre de fils entre mes travaux sur l'écriture, notamment avec des collègues de la salle, là, pour qui j'ai une émotion, qui ont été faits à Versailles, qui ont été faits dans le cadre de l'équipe ESCOL, et puis les travaux que j'ai faits plus récemment dans le cadre du laboratoire Le LIRDEF, là, que je dirige, et dans ceux d'une ERT, Technologie en éducation, qui travaille beaucoup sur les gestes professionnels. Et donc, dans la conférence, je vais essayer de vous tisser les liens entre tout ça, pas facile, peut-être un peu acrobatique. Alors, le titre, vous le voyez, « Une professionnalité des enseignants plus exigeante ». Si je devais dire mon créneau pour la transformation des UFM, c'est d'aller vers une exigence beaucoup plus importante et une précision, une description beaucoup plus importante de la professionnalité. Pour aller vers des ajustements beaucoup plus précis auprès des publics différents, des situations différentes, qui ne vont cesser d'évoluer dans la décennie. Hein. Et en même temps, j'oserais dire qu'il nous faut opérer des ruptures très importantes dans les classes. Pas tout casser, comme disait Marilyn, faire attention, certainement pas tout casser, mais quand même il y a des ruptures importantes. Et ces ruptures, c'est en formation que nous devons les faire. Hein. On ne peut pas les demander aux enseignants si en formation, on ne donne pas un peu l'exemple. Donc ma conférence, elle est un peu, j'allais dire, dans le futur, quoi, d'une certaine façon. Alors, donc, voilà, hein, c'est ce que je viens de dire. C'est la suite et l'enchâssement d'un certain nombre de travaux avec des équipes différentes et des équipes où il y a toujours eu beaucoup d'enseignants de terrain mêlés avec des chercheurs et mêlés avec des formateurs. Et c'est probablement pour ces raisons-là que nous arrivons peut-être à toucher des choses ensemble. Alors, quand même au début, je vais faire un ou deux petits préliminaires qui vont expliquer les conceptions profondes en arrière-plan de mon travail, qui est aujourd'hui d'arriver à penser ensemble la question de l'enseignement avec la question du développement des personnes, pas que des sujets élèves. Hein. Et depuis tout le temps, mon credo, je ne suis pas la seule évidemment, hein, c'est que les dimensions identitaires, les dimensions langagières, cognitives, culturelles, socio-affectives, qui constituent le développement, sont étroitement corrélés. C'est une dimension anthropologique, hein, d'essayer de penser la construction du savoir, le rapport au savoir, dans son rapport au monde et dans son rapport à sa propre vie. Hein. Voilà. Et il me semble que d'une façon générale, l'école française, dans ses programmes et dans ses institutions, etc., n'en prend pas suffisamment la mesure. Voilà. Du coup, l'idée, c'est que faire se développer, faire apprendre des élèves, c'est évidemment avoir des bons programmes, etc. C'est évidemment avoir des bonnes tâches, c'est évidemment avoir des bons exercices, c'est évidemment d'avoir des bons gestes professionnels, mais cela veut dire qu'il faut créer les conditions de ce développement pluriel. Et je pense que là est le problème. Et c'est vrai que les enfants de milieux favorisés, ils trouvent les conditions de ce développement pluriel beaucoup dans leur famille, et que les enfants moins favorisés le trouvent beaucoup moins, et l'école ne leur fournit pas ces conditions, me semble-t-il, suffisamment. Hein. Il faut faire attention à la caricature, hein, parce que s'il y a une chose que je voudrais dire d'emblée, c'est que moi, de plus en plus, je n'ai plus envie de dire les écoles de la périphérie, les écoles ZEP, parce que je vois tellement de différences d'une circonscription, d'une école en l'autre, d'un collège dans la même ville, entre le haut de Montpellier, de Mausson, et le bas de Montpellier, c'est deux collèges différents, que je crois qu'il faut faire attention à nos généralisations hâtives. Mais parler, c'est forcément généraliser, donc on a tendance. Hein. Voilà. Et enfin, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que peut-être une des caractéristiques des élèves en difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à tisser les liens entre leur expérience scolaire et leur expérience sociale, culturelle et personnelle. L'école, ils sont attentifs, ils sont souvent des gentils élèves qui ont des postures scolaires, ils font leur métier d'élève, comme dirait Pernoud. Mais c'est comme la pluie sur les plumes d'un canard, ça ne rentre pas, hein, ça ne laisse pas de traces dans le développement de leur rapport à eux-mêmes, de leur rapport au monde, de leur rapport au savoir. Et ce sont des très grosses questions. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est effectivement, tout à l'heure on parlait du vécu des enfants, c'est pas tellement la question du vécu, hein. Bien sûr que le vécu, il faut faire attention, il est souvent hyper difficile, mais c'est la question de la culture. De la culture avec laquelle ils viennent, de la culture de leur famille. Et les écarts sont de plus en plus grands. Hein. Ils ne sont pas que grands dans les écoles en difficulté. Ils deviennent grands aussi dans d'autres écoles. Donc je pense que là, on a un enjeu tout à fait important. Alors voilà, donc hein, pour moi, formule un peu abrupte, mais les difficultés des élèves de ZEP sont à prendre comme des symptômes. Hein. Elles nous révèlent les difficultés déjà là ou à venir, pour éduquer tous les élèves dans leur grande diversité culturelle. Voilà, donc cette idée que je trouve, c'est un postulat d'une certaine façon. Alors, je vais développer, excusez-moi, je vais essayer de développer pendant cette conférence 4 thèses. J'aurai sans doute pas beaucoup de temps, mais en gros, je vais vous les donner d'emblée et je terminerai par une conclusion sur la formation. La première thèse, vous le voyez, c'est qu'il y a des configurations un peu invisibles entre les postures des élèves et les postures des enseignants. Il y a des conduites partagées. Nous avions écrit un livre hein, avec les collègues de Versailles. On l'avait écrit « Conduite d'écriture ». Et le « conduite », c'était pour dire aussi effectivement que c'est conduite des élèves et conduite des maîtres, avec l'idée que, quelquefois, il y a des configurations qui peuvent devenir extrêmement heureuses mais aussi qui peuvent devenir pas très favorables à la dynamique des apprentissages. Et là aussi, j'essaierai de montrer qu'il y a peut-être des ruptures fortes à opérer dans la culture professionnelle. La deuxième thèse importante pour la formation, parce que là, c'est une rupture très, très forte que je demande, c'est l'impossible séparation du didactique et du pédagogique. Dans nos instituts de formation, d'un côté, on fait le didactique, de l'autre côté, on fait tout ce qui est de l'ordre du pédagogique. Hein. Dans la classe, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on préconstruit dans une représentation, dans la formation, que ce sont deux des moyens, apprentissage d'un côté, socialisation et pédagogie de l'autre. Et là, de mon point de vue, continuons comme ça, et je crois qu'on va contribuer, par la formation, à construire ces représentations dissociées. Et du coup... voilà, donc je travaillerai tout à l'heure sur cette idée du multi-agenda. Il y a tout un tas de choses à faire ensemble qui ont besoin d'être identifiées et précisées si on veut que les enseignants les intègrent. Troisième thèse qui a été déjà un tout petit peu posée dans une question. Il me semble que la maîtrise des objets enseignés est une condition sine qua non d'un travail correct dans les classes. Et je pense qu'il faut un haut niveau d'expérience, hein. Pas que de travaux théoriques, d'expérience didactique et de culture didactique dans nos domaines didactiques du français. Elle est très large, la culture didactique. Nous disposons de plusieurs modèles. Si on veut que les enseignants arrivent à faire des diagnostics précis et diversifier leur forme d'étayage. Voilà. Enfin, j'essaierai de donner, peut-être, si on a le temps, un aspect un peu positif et un peu constructif, parce que nous travaillons dessus en ce moment, c'est l'atelier pourrait être une forme scolaire à privilégier. Beaucoup plus qu'elle ne l'est, parce que dans l'atelier, il y a une disponibilité, une écoute beaucoup plus grande de l'enseignant et des ajustements d'une précision beaucoup plus grande. Je vous donnerai un tout petit bout de vidéo, peut-être, si nous avons le temps. Voilà, les quatre thèses et les conclusions. Alors, la thèse 1, j'ajoute ici que c'est vraiment une conférence de consensus, parce que dans ce qu'a dit Marilyn, il y a plein de choses que je vais dire qui entrent complètement en écho. Ça va me permettre de gagner du temps. Nous avions beaucoup travaillé sur les postures de lecture-écriture des élèves en difficulté et de mon point de vue aujourd'hui je me rends compte qu'elles sont un double révélateur ces postures d'écriture et de lecture des élèves que je détaillerai un tout petit peu plus. Elles sont un révélateur des ajustements des élèves aux situations Et elles sont en même temps un révélateur des ajustements des pratiques enseignantes à ces mêmes élèves. Donc c'est une espèce de boucle, parfois infernale, qui se met en place. Alors la définition de posture est la suivante, hein, ce sont des schèmes-réponses, une espèce de paquet qui sont disponibles, qui sont des schèmes-réponses qui sont d'ordre cognitif, forme de pensée, qui sont langagiers et qui sont préconstruits, on les a, hein, dans notre histoire et dans notre expérience et chez les élèves, dans leur histoire scolaire et dans leur expérience d'élèves, mais aussi dans leurs autres expériences. Et ce sont des schèmes-réponses qui sont disponibles et qui peuvent être aussi inhibées. Hein. C'est-à-dire qu'on les a, mais on les sort pas, parce qu'on pense que c'est pas les bons qu'il faut sortir. En gros, en d'autres termes, ce sont des sortes de manières d'être à la tâche, hein, cette notion de posture sur laquelle nous avons beaucoup travaillé une époque. Alors, posture, pour ce qui est des postures, très rapidement, je reviens en arrière sur des travaux anciens, j'ai un peu simplifié. Je ne vais pas donner trop le détail, je n'ai pas le temps, sur les questions des postures de lecture-écriture, mais nous les avons toujours identifiées en regardant les formes langagières des élèves, la manière dont ils parlent, la manière dont ils s'énoncent. Voilà. Hein. C'est à partir de travaux langagiers et linguistiques très précis que nous avons identifié ces postures. Alors, on va dire qu'il y a des postures qui sont le désir d'être conforme, le désir de se conformer aux attentes du maître. Cette conformité, elle peut être aveugle, on se conforme comme on peut, voilà. Hein, le maître veut 5 lignes, sans doute, je vais écrire 5 lignes. Ou elles sont stratégiques, j'écris 5 lignes parce que le maître sera content et on verra bien. Mais globalement, c'est une espèce d'impasse de la pensée. Il n'y a pas d'autorisation, on ne s'autorise pas à penser ou on ne veut pas montrer qu'on pense. Et là, en gros, ça traduit, dans le fond, en même temps, une insécurité, un besoin d'être en règle, une très grande dépendance au maître, très grande dépendance à la tâche. On refait la tâche comme on a fait la tâche précédente. C'est le refus des pairs. La parole des pairs est gênante parce qu'on a trop peur. Et en gros, on a envie de se conformer ou de faire semblant. Des postures ludiques. Alors, on les a appelées ainsi parce qu'elles sont de deux sortes. Pas très importantes, mais on les rencontre. Et elles sont des indicateurs de stratégies de détournement. Ou alors aussi des stratégies tout à fait intéressantes de créativité, mais un peu hors des normes. On s'autorise à penser ou à faire un ordre. L'école française ne favorise pas trop cette créativité, hein, ça c'est clair. Donc il faut prendre des risques pour y aller. Et on a certains enfants qui vont être en difficulté parce qu'ils ont pris des risques. Voilà. Par exemple, pour donner un tout petit exemple, et je ne vais pas trop m'attarder, mais dans une étude que nous avions faite sur les élèves de seconde, nous avions une élève de seconde qui arrivait de milieu défavorisé, et qui écrivait ses commentaires ou dissertations en rap, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Pour ne pas rentrer dans la norme, elle essayait d'avoir une stratégie un peu ludique, voilà, pour donner un exemple. Alors, les postures immédiates que j'ai appelées aussi premières, postures d'action, ce sont des postures qui traduisent un engagement très fort des élèves dans l'action. Ils veulent faire, ils se précipitent sur le cahier, ils veulent écrire, ils veulent copier, etc. C'est un engagement dans la situation. Il y a beaucoup d'émotions, hein, pour répondre à la question des affects. On est dans une brute d'écrit, brute de pensée. On est dans les phénomènes de lecture, dans des processus d'identification au personnage, par exemple. Hein. Et ce qui caractérise aussi cet engagement immédiat, c'est qu'il n'est pas lié à des choses qu'on a fait ailleurs, des choses qu'on a lues avant ou des choses qu'on va faire ensuite. On est vraiment dans la question 1, puis dans la question 2, puis dans la question 3, sans qu'il y ait véritablement lien entre la 1, la 2, la 3 et la 4. Typique encore en seconde, hein, pour la préparation du commentaire composé. Ils font les questions séparément de la dernière question qui est en fait la résultante. Voilà, cette notion d'immédiateté, donc ça reprend tout à fait ce que disait Marie-Lise. Hein. Et puis donc, ce que nous avons appelé, nous, les postures réflexives, hein, on a écrit et fait écrire ce livre, l'oral et l'écrit réflexif, pour penser, apprendre et se comprendre, c'est cet oral ou cette écriture ou ces formes langagières qui vont permettre de prendre de la distance. L'équipe de Bernier dit secondarisation, Elisabeth Bautier aussi prend le terme de secondarisation. C'est-à-dire que les tâches sont pensées, elles ne sont pas que faites, elles sont pensées. Et surtout, ce qui nous frappe, les objets de savoir sont nommés. L'élève a conscience de sa propre activité de pensée. Quelquefois, on dit, oh, on voit des gestes, oh, et qui montrent que l'élève est en train de prendre conscience qu'il est dans, de sa stratégie. Et surtout, l'élève prend conscience du langage. Il n'est pas dans le langage. Il commence à prendre conscience du langage comme objet-instrument. Tous les travaux que nous faisons actuellement sur la littérature de jeunesse à l'école, sur le débat littéraire à l'école, sont d'amener les enfants à prendre conscience du langage de la langue littéraire et à revenir dessus. Faire un débat philo ou faire un débat littéraire, c'est pas du tout le même objet, puisque le rapport au langage n'est pas du tout de même nature. Et il y a des tout petits gestes professionnels très fins qui les séparent. Voilà. Alors, pour donner, là, ce sont les travaux de notre sur les gestes professionnels, c'est un tableau que j'ai bien simplifié, mais pour essayer de montrer que l'espace de co-ajustement entre les maîtres et les élèves, au centre, avec par exemple ici 3 ou 4 scénarios, va se réaliser évidemment dans l'instant de l'action au milieu, mais auparavant et avant l'action et même pendant l'action, il se réalise au travers d'un certain nombre de représentations, hein, on parlait des représentations des enseignants, représentations des possibles de la situation. Qui vont amener les enseignants à un certain nombre de postures. Marie-Lise, les 3 postures de Marie-Lise étaient un peu de cet ordre. Hein. Mais du côté des élèves, c'est la même chose. Hein. Les élèves arrivent avec leur déjà-là, leurs valeurs, leur expérience scolaire, sociale, leur capital émotionnel, leur rapport au langage, de la même façon. Et donc, on a un espèce d'ajustement conjoint qui s'articule, selon nous, sur ces logiques profondes. C'est-à-dire qu'il y a un couplage dans l'instant, mais en même temps, dans l'arrière-plan, les Britanniques disent « under layers hein, », les couches profondes. Voilà. Et en gros, aussi, si je mets en vert au-dessus, c'est parce que nous pensons que le rapport au savoir des enseignants, la connaissance des objets enseignés, ou leur propre rapport au savoir, est probablement un des articulateurs forts de la construction de leur représentation des possibles de la situation et des postures ou des concepts pragmatiques, dirait l'équipe de Pastré. Voilà. Alors, juste pour essayer d'expliquer un peu plus le propos, j'ai pris un exemple, hein, c'est pas une caricature. Vous allez le reconnaître lorsque on a des ateliers de remédiation faits notamment par des intervenants, des aides éducateurs, cette flopée de gens qui viennent maintenant aider, hein, sans culture professionnelle, sans formation. On leur donne des ateliers de remédiation, on leur fait faire un tas de choses, et ça peut donner ça. Hein, et on le trouve aussi chez des enseignants, évidemment. Une représentation déficitaire des élèves, ils ne peuvent pas. Hein, de toute façon, ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas de vocabulaire, pas d'attention, pas de ceci, pas de cela. Une conception behavioriste de l'apprentissage, il faut s'entraîner, il faut répéter, il faut leur faire rentrer dans la tête. On a beaucoup d'entretiens hein, avec des enseignants. Il faut leur faire rentrer dans la tête. Hein. Une succession de tâches faciles ou répétitives, sans lien entre elles, ni avec le cours. Alors, on sort les élèves d'une classe à l'école primaire, au collège, et on ne fait pas le lien avec les problèmes qu'ils ont rencontrés dans les classes. Peu de place pour les interactions langagières orales et écrites de travail. Les objets de savoir ne sont pas nommés. Et on est, pour l'enseignant, dans une posture de surveillance et de contrôle, très peu d'étayage, et un dispositif relativement frontal. Qu'on en ait 5 ou qu'on en ait 15 ou 25, ça ne change rien, c'est la même chose. Et donc, du coup, c'est là, j'essaie de prendre cet exemple caricatural, mais quand même rencontré, plusieurs scènes dans la tête, parce que ça renforce les postures scolaires premières du faire. Alors on voit les élèves qui font la tâche, ils font tous les problèmes les uns sur les autres, sans écouter les corrections, parce qu'il faut qu'ils aillent au bout de la feuille, et ils seront bons élèves s'ils sont allés jusqu'au bout de la feuille. Et donc, d'une certaine façon, on a accord parfait, on a paix scolaire, et du coup, il n'y a pas d'incorporation durable des savoirs travaillés. J'aurais pu vous prendre, veuillez m'en excuser, exactement une autre posture tout à fait constructive. J'en ai un, mais je n'aurai pas trop le temps, si on a le temps. Pour voir que ça va produire des logiques, les logiques qui vont être convoquées vont être radicalement différentes. Donc, en formation, la question, c'est comment aller à ces, j'allais dire, hein, à ce nord, ces logiques profondes des enseignants, par quelle situation je vais réussir à mettre en travail ces représentations et ces logiques très profondes qui relèvent de l'identité professionnelle, etc. Voilà. Il me semble que c'est la grosse question. On a quelques pistes. Voilà. Alors, deuxième thèse, c'est la thèse de la nécessité de connaître un petit peu mieux ce métier auquel nous prétendons former. Moi, j'ai le sentiment que nous connaissons assez mal ce métier, finalement. Il a été, dans le fond, pas tellement décrit. Et donc, nous nous sommes attaqués, évidemment, pas avec plein de précédents, mais à essayer de comprendre comment se fait cet entre-là de préoccupations. Alors, pour faire simple, je dirais que, quand je dis « je », ce n'est pas un jeu de majesté, c'est un jeu de convenance, mais en réalité, c'est tout le travail de l'équipe, hein. Mais c'est plus facile. Voilà. Je dirais donc que de la maternelle à l'université, on a toujours, lorsqu'on enseigne, ces cinq préoccupations qui sont constantes. Des préoccupations de gérer les tâches, gérer le temps, l'espace, la situation. Hein, on est là à la montre, etc. On a des instruments qui fonctionnent plus ou moins, des manuels ou pas de manuels. OK. On a une préoccupation d'atmosphère, que nous avons appelée atmosphérique. C'est-à-dire qu'il faut créer, gérer une sorte d'éthos de la communication, maintenir des espaces dialogiques. Et vous savez comme moi qu'ils bougent entre le début et la fin, et le milieu, ils bougent sans arrêt, ces espaces atmosphériques. Qu'en même temps, nous avons un souci de tissage. C'est-à-dire, là, j'ai fait quelques liens avec Marie-Lise, hein, pour que ça soit un peu plus facile à comprendre, pour donner du sens à son propos, d'arriver à le tisser avec l'avant, avec l'après, mais aussi avec ce qui va suivre. On a en permanence ce souci d'accrocher les morceaux, hein, pour se faire comprendre, hein, c'est la communication. Et puis évidemment, frontalement, on a ce souci d'étayage, puisque la tâche de l'enseignant, c'est de faire comprendre, faire dire, faire faire. Et évidemment, au centre, pourquoi toutes ces préoccupations ? Ben, pour construire un certain nombre de savoirs, d'objets de savoir et de techniques. Donc là, on a, dans le fond, des préoccupations de métier, dont les dosages vont sans arrêt... qui sont indissociables de notre point de vue. Voilà. J'ai refait le même travail en un peu plus compliqué, c'est-à-dire que ces gestes de métier, dès lors qu'on commence à les regarder, on se rend compte qu'ils se passent sur des scènes différentes, qu'il faut gérer la scène collective, ça va, Dieu merci, on n'est qu'en collectif, c'est pas trop difficile, mais quelquefois c'est la scène duale, quelquefois c'est une scène d'atelier alors que tout le reste est en autonomie, quelquefois c'est une scène privée, je surveille les yeux des gens pour voir si ça suit, et puis c'est aussi toutes les scènes d'arrière-plan de ce qui se passe derrière, dans les couloirs, les sacs, etc. Et l'enseignant, il a en permanence à gérer l'ensemble de ces scènes, et il a en permanence à gérer l'étayage, le tissage, l'espace-temps et les artefacts et les contenus de cours avec sur l'ensemble de ces scènes. Je ne vais pas aller trop dans le détail, ce n'est pas l'objet, mais vous voyez, les petits triangles que vous avez, c'est ces micro-gestes d'ajustement qu'il va falloir faire en fonction des objets travaillés, de l'avancée de la leçon, si on est dans l'ouverture ou dans l'institutionnalisation, etc., dans un certain nombre de scénarios successifs. Et ces gestes, les uns les autres, sont toujours... je devrais lire mes notes parce que je vous avais cherché un exemple. Ils sont toujours enchâssés les uns les autres. Par exemple, Alice, tu peux montrer au tableau à Sophie dans quel mot on a trouvé le son on. Alice, tu peux montrer au tableau à Sophie dans quel mot on a trouvé le son on. On est dans de l'atmosphère, on est dans du dialogique, on est dans les artefacts parce que c'est au tableau. On est dans le geste d'apprendre à la petite de montrer à une autre, etc. Et on est sur le cœur du cœur, c'est le capital de mots qu'il y a au tableau et le son. Ça veut dire que là, on est en permanence dans la moindre interaction langagière, dans un tissage extrêmement profond de ses préoccupations. Les professionnels savent bien le faire, les novices peu. Donc ils parlent. Puisqu'ils les font séparément, ces gestes. Le professionnel, lui, sait se taire, gérer un certain nombre d'éléments d'atmosphère ou d'espace et de temps avec les yeux, avec les mains. Voilà. Donc j'avance un petit peu, mais cette idée que nous avons des gestes de métier, des gestes d'ajustement à affûter, j'allais dire. Parce que on est en permanence dans la dynamique de la classe, dans des reconfigurations, des renégociations constantes. Le moindre incident, le moindre événement, la moindre réponse à côté ou la moindre problème d'incident, de météo ou de quelque chose qui tombe dans la classe va recasser la dynamique d'ensemble et il va falloir ne pas reperdre le fil de l'ensemble des maillons qu'il faut garder ensemble. Ce que nous observons de plus en plus, c'est l'importance de ces gestes d'atmosphère. Je donne un exemple dans deux classes qui font rigoureusement la même leçon de ratus de lecture, avec le même dispositif, en suivant strictement le manuel. On a un maître qui est un maître que nous avons, que les étudiants ont qualifié un maître en ne pas. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne prends pas, ne dis pas, etc. Et un autre, au contraire, qui fait des plaisanteries de temps en temps, etc. Et l'atmosphère, d'un côté, très pesante et coercitive, et de l'autre, l'atmosphère est de travail aussi, mais avec une dimension un peu plus euphorique. Nous pensons que ces gestes d'atmosphère pour l'enrôlement des élèves, l'accroche de leur attention, sont probablement de première importance, et la capacité à les faire changer au fur et à mesure que la leçon avance. Hein. Peut-être un des résultats les plus importants de nos travaux, résultats modestes, vous me direz, mais nous observons que dans les classes, nous avons très peu de gestes de tissage entre les tâches. C'est-à-dire que les tâches, les scénarios se succèdent sans qu'ils soient accrochés les uns aux autres. Résultat, les élèves en facilité accrochent implicitement, les élèves en difficulté font les tâches dans leur succession, mais ne les accrochent pas. Quand on leur demande, alors on fait des entretiens, de nous raconter le cours, un élève en difficulté non seulement raconte le scénario du cours, mais pourquoi on a fait ça et dans quel ordre. Un élève moyen raconte le scénario du cours, mais ce n'est pas du tout pourquoi on accroche. Et un élève en difficulté, il s'est à peine retrouvé le scénario du cours. Il a fait les tâches, on l'a vu faire, mais il n'a pas refait l'architecture. Ces liens de tissage à l'intérieur du cours sont faibles. Les liens de tissage avec l'extérieur, l'avant et l'après, sont très faibles aussi. Là, c'est une constante que nous observons, y compris chez de nombreux maîtres. Enfin, j'allais dire, Marie-Lise l'a très bien montré, cette palette de gestes d'étayage est trop restreinte, elle est trop peu souple. S'il y a à travailler en formation, sur des situations vidéoscopées, etc., c'est sur cette palette très fine des gestes d'étayage. C'est trop collectif, et alors on a un effet PMES, hein, ça répète derrière. C'est trop individuel, et du coup le collectif ne fonctionne pas. Le geste qu'on a appelé geste d'impatience, le maître pose la question, il n'attend pas la réponse. Dans l'impatience et la peur que les élèves ne répondent pas, il apporte la réponse. Il n'y a pas de temps pour la pensée des enfants. Montrer, il faut montrer, mais en même temps, montrer trop vite empêche de penser. Donc, et c'est la même problématique pour les lycées professionnels. Travailler en atelier, travailler dans la classe, la question de la monstration, à quand on introduit la monstration, grosse question, hein, qui va produire des effets très différents. Trouver la place et les moments d'enseignement, pré-enseignement, voilà, d'institutionnalisation, pré-institutionnalisation, c'est pas facile, et trop peu de travail, de demande d'explicitation. Je passe à mon... Oula, je suis très mal. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite parce que Marilyn l'a dit, je l'ai déjà dit, il me semble que nous devons exiger un très haut niveau d'expérience et de culture de la discipline. Et quand je dis très haut niveau d'expérience et de la culture de la discipline, il faut que les enseignants sachent à quel endroit la tâche fait problème. Hein. C'est ce qu'on appelle les analyses didactiques a priori. Anticiper dans la séance d'écriture quel est le lieu où il va y avoir problème. Je ne détaille pas. Hein. Voilà. Et là, je vais passer très vite, j'y reviendrai, parce que j'avais donné des exemples de consignes de réécriture, par exemple, hein, pour essayer de développer la diversité de gestes professionnels. On y reviendra peut-être dans la discussion. Voilà. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Et je voulais revenir sur cette notion d'atelier. Voilà. Une forme scolaire, de mon point de vue, à développer, parce que c'est une tâche... On va poser une tâche complexe, résolue à plusieurs, dans un espace-temps limité, avec à la fois du dual et du collectif, pour travailler sur l'hétérogénéité. C'est une réponse à l'hétérogénéité. Parce que le maître va se rendre disponible pour des ajustements cognitifs, langagiers, socio-affectifs, etc. Et parce que ça va être le lieu où le maître va caler des gestes d'études tout à fait demandés. Et on va voir que là, dans l'atelier, les verbalisations du maître, parce que je pense que la professionnalité de l'enseignant va se jouer dans du registre de son langage. Les gestes professionnels sont des gestes langagiers. Et la capacité à faire jouer le langage dans son extrême variété, de registre, de forme, me semble quelque chose, Nous, on travaille en formation. Il n'y a même pas un module sur la communication scolaire à l'école dans les UFM. Voilà. On a la voix, le corps de temps en temps. La voix, le corps, pas moyen d'installer un module sur la communication dans mon UFM. Impossible depuis 10 ans. Voilà. C'est vous dire que là, on le fait à la fac, Dieu merci, mais à l'UFM, on ne le fait pas. Alors, je vais vous donner là deux petits extraits. Alors, j'espère que ça va marcher. Attends, faut que j'ai la clé. Ok. Je tremble carcasse.
Qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que c'est un atelier d'écriture? Zélie.
On apprend à écrire et aussi, on écrit des choses.
Oui, Reda.
Et on apprend à lire aussi.
On apprend à lire en écrivant, c'est vrai ça. Arroi.
Et aussi, on apprend à lire.
À lire aussi. Et toi, Anatole, qu'est-ce que vous avez déjà écrit à l'atelier d'écriture?
Plein de choses.
Jument, oui.
Alors, je vous donne le deuxième. C'est la suite. Enfin, c'est un atelier qui dure. Est-ce qu'il va se fermer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez. Je vous ai dit, la communication devient une affaire très. Ça? Voilà. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Enfin, qu'est-ce que vous écrivez? Marois.
Bonjour maman, on voudrait avoir du bois.
Du bois, c'est ça dont on a besoin?
Non, je sais pas.
Du podium. Des
podium. Maîtresse.
Oh, qu'est-ce qu'il faudra pas oublier si on a des?
Maîtresse.
Chut, qu'est-ce qu'il faut pas oublier?
S, la S.
Ce matin, Reda, il a dit il y avait Thomas, et bien S, donc il y avait plusieurs Thomas. Ouais, c'est vrai, c'était une erreur intelligente.
Non, je sais faire. Ok.
Bonjour, c'est pas joli crayon qu'on écrit aujourd'hui. Bonjour. Bonjour.
B.
Ah.
B.
Ah, papa, alors.
Mais
toi,
B,
tu dis. Attends. Elle, il dit B, tu dis P. C'est quoi alors?
B.
P alors?
B, parce que ça ferait bonjour.
Ça ferait. Il dit ça ferait bonjour. B comme babar.
On entend B en plus.
Ah oui, c'est en bois.
D,
parce qu'en fait, je me souviens dans l'histoire, on dit bonjour maîtresse et c'était B en premier.
Ah oui, c'est vrai, dans l'histoire. Allez, hop, bonjour. Victoria.
B.
Place.
B.
Vas-y.
B.
On peut se copier dessus, hein.
Oh non, j'ai fait.
C'est pas grave, c'était un brouillon. Après, on leur fera faire barre-le, puis fait à côté. Bon.
Oh là là, j'ai fait ça.
Bon. Clara, bon. Tiens-toi correctement, s'il te plaît, les pieds devant. Bon.
A-N.
Alors. Ah, papa, tout le monde est d'accord? A-N.
Non.
Bon, alors, on peut s'aider du tableau là-bas aussi. Hein.
Moi, je mets pas du
c'était
tableau.
Le on de quoi? De pont?
D'Antoine.
De cochon?
D'Antoine.
Ah, oh. Antoine. C'était le on de quoi? De pont,
d'Antoine.
De cochon.
D'Antoine.
Ah, Antoine.
Antoine.
Cochon. Maison. Bonjour.
Bonbon.
On.
Bonbon.
Alors comment, bonbon. Alors comment ça s'écrit on?
On de Antoine.
Non, écoute. On, ça ferait.
Le O-N.
Antoine.
O-N.
Mais attends. Antoine. On. Il n'y est pas.
O-L.
Alors vous avez la masse des gestes professionnels contenus là-dedans et leurs ajustements. On y reviendra si vous voulez plus tard. Quelques conclusions pour la formation, très vite. Hein. De mon point de vue, oser les questions éthiques, épistémologiques en formation. Hein. Le rapport, les valeurs, l'éthique du métier. Je pense qu'il y a une autre conception de la didactique. Bon, j'ai une autre conception de la didactique en ce qui me concerne. Travailler sur les logiques enseignantes, mais aussi les logiques d'établissement. Je trouve que la question, par exemple, des stages filés nous permet de travailler sur les établissements. On ne s'en empare peut-être pas suffisamment. Et renforcer les savoirs disciplinaires et didactiques en formation initiale à l'université dans des licences d'enseignement. Deuxième perspective, un grain très fin pour décrire et connaître le métier. Travailler les gestes professionnels dans leur entrelacs et derrière ça aussi très fortement une grosse question, repenser la question des gestes d'évaluation pour préparer aux multiples ajustements. Je n'ai pas le temps de développer, mais on a une grosse question sur l'évaluation telle qu'elle se fait du produit et jamais des attitudes, des postures du rapport. Des dispositifs et gestes de formation inventés, et je trouve qu'il me semble qu'un déficit de ce métier, c'est que c'est un métier qui n'est pas parlé. Il faut dire le métier, parler le métier. Les enseignants ne savent pas nommer leurs pratiques. C'est hallucinant quand on le fait. Hein. On leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous appelez ça? Ils n'ont pas de mots. Ils n'ont pas de mots pour dire leurs pratiques. Donc, s'ils n'ont pas de mots pour les dire, ils n'ont pas de mots pour les penser. Et donc, du coup, on a un gros travail pour faire parler le métier. Hein. Et je reprends l'idée de Marilyn, hein, que l'on prend de la didactique professionnelle. La culture ne se transforme, de mon point de vue, pratiquement que dans et par les collectifs. Donc il faut inventer des dispositifs de controverses professionnelles, etc., la pluralité des regards, etc. Et enfin, dernière piste, c'est clair, je presse pas pour ma chapelle, mais pour notre chapelle à tous, favoriser, accompagner l'invention, parce qu'il va falloir inventer beaucoup, des ruptures, il faut les inventer, par la recherche, action, formation. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Voilà. Et la biblio, mais ça, bon, on peut la laisser.
Bien.
La biblio, c'est les livres que j'ai amenés ici.